Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yidel prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous du commentaire de la paracha par Avraham Harold Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, très bien.
Baruch HaShem, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale puisqu'on va parler également de l'événement de la semaine, ce sera la fête de Shavuot, mais on revient à ce Shabbat nous lirons la paracha de Bamidbar. Attention, ce Shabbat c'est aussi la veille de Rosh Chodesh, donc il y a une incidence dans la lecture de la Torah de demain.
L'Aftara surtout, oui.
Demain, ce soir, l'allumage des bougies, ce soir, 20h47, selon le calendrier, on pourra allumer les bougies du Shabbat à partir de 19h32. Et demain, à la fin du Shabbat, ce sera à 22h09. Et donc, notez d'ores et déjà que samedi soir et dimanche, on fêtera Rosh Chodesh Sivan. Et dès jeudi soir, ce sera la fête de Shavuot. Voilà, on a tout dit. On va y revenir, évidemment, dans un instant. Mais avant, monsieur le grand rabbin, vous étiez, je crois, la semaine dernière, dimanche dernier, à Mulhouse, où il y a eu l'intronisation d'un nouveau rabbin, Noté Levintov, c'est ça?
Tout à fait.
D'accord.
Le rabbin de Mulhouse, qui est en réalité en fonction déjà depuis 3 ans, puisqu'il est arrivé dans cette communauté quasiment de manière concomitante avec le terrible épisode du Covid, ce qui a été un vrai challenge pour lui de devoir s'occuper d'une communauté dans laquelle il y avait un défi de continuer à maintenir le minyan et de faire vivre la communauté dans un contexte, donc on l'a dit, tout à fait particulier, puisque les choses devaient se faire et les activités ont dû se faire en Zoom, et il a fait vraiment un travail remarquable.
Ouais.
Et on lui souhaite une grande hatzlacha. C'est un rabbin qui a fait ses preuves pendant des années à Belfort. Il a été très très apprécié par la communauté de Belfort, qui pourtant était une communauté qui était en perte de vitesse. Et il a su, avec son épouse, faire vraiment un travail de rapprochement au sein des fidèles. Et cette opportunité lui a été donc offerte et donnée de progresser un petit peu dans sa mission rabbinique. Et ça fait donc maintenant 3 ans qu'il fait ses preuves à Mulhouse, et une très belle intronisation.
Voilà, il a été intronisé en présence du grand rabbin de France, Chaim Korsia. Donc Mazal Tov au nouveau rabbin Levintov et à la communauté de Mulhouse et à son président, qu'on salue, monsieur Bernard Selam, qu'on salue bien fort. On n'oublie pas, comme chaque semaine, de souhaiter un refoua shelema à tous nos malades et un Shabbat shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Et on va donc commencer par parler de la paracha et du résumé de la paracha. Alors, il faut rappeler que c'est la première paracha du 4e livre de la Torah. Ça, c'était important de le dire. Et on parle, en fait, pendant cette paracha, monsieur le grand rabbin, beaucoup de dénombrement.
Tout à fait. La paracha est entièrement axée sur le dénombrement du clan Israël. On sait que le peuple d'Israël a été dénombré à plusieurs reprises par Dieu, des moments essentiels de l'histoire. Et la raison principale qui est rapportée, notamment par Rashi, c'est l'amour et l'affection que Dieu éprouve vis-à-vis du clan Israël. Et donc, dans des moments déterminants de son histoire, mais il est important de les compter pour leur rappeler vraiment l'importance qui est la leur dans cette histoire. Ça peut être des moments où il y aurait pu avoir un sentiment de découragement, je pense notamment après la faute du veau d'or, ou d'autres moments où on a envie de donner un petit coup de fouet et montrer finalement au clan Israël l'importance qui est la sienne dans l'histoire du monde. Et donc ce dénombrement va être extrêmement précis dans cette paracha de Bamidbar, puisqu'on va d'abord compter l'ensemble des tribus. On va compter à part la tribu des Lévim, qui avait, comme vous le savez, un rôle tout à fait particulier dans la mission spirituelle du clan Israël. Donc ils vont être dénombrés de manière encore plus précise et selon un compte un petit peu différent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'importance que nous allons mettre dans cette paracha, ça pourrait être vraiment là aussi l'objet d'un cours en soi, sur la notion de fanion, puisque on va nous parler d'organisation aussi dans le camp du peuple d'Israël, et les fanions qui étaient un emblème et une une volonté finalement de marquer l'identité de chacune des tribus ou des groupes de tribus qui s'organisaient autour du tabernacle. Dans le désert, c'est très intéressant.
Alors, Bamidbar, si je prends la tradition, c'est dans le désert. Et en travaillant, je me suis dit quand même, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit que le désert pour accueillir la Torah? On aurait pu prendre, par exemple, Jérusalem ou un autre endroit. Et vous disiez, le désert, c'est le champ des possibles. Vous le dites souvent. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je le dis souvent et je continue à le dire. Le désert, c'est le champ des possibles parce que, comme vous le savez, Jean, dans le désert, on peut voir très très loin. Le désert, c'est un endroit qui est désolé. Le désert, c'est un endroit dans lequel il y a tout à construire. C'est un endroit, a priori, dans lequel il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de plantation. Et donc, le désert, c'est la possibilité, finalement, pour chacun de pouvoir envisager son propre avenir, de ne pas être conditionné en quelque sorte par ce qui existe déjà. Alors, vous allez me dire, parfois important d'être conditionné par ce qui existe déjà. Et si on n'est pas porté par ceux qui nous ont précédés et par les forces que nous ont insufflées ceux qui nous ont précédés, je parle pas simplement de nos parents, je parle en remontant très très loin déjà, je pense aux patriarches, ou je pense à la force qui a été insufflée par Moshe Rabbeinu lui-même au moment où il a su regrouper le peuple et où il a su transmettre de manière si forte cette Torah, on a du mal à avancer, mais en même temps, il y a cette volonté de donner la Torah dans un endroit dans lequel personne ne puisse se sentir écrasé par une histoire ou écrasé par quelque chose qui l'enfermerait un petit peu dans ce qui l'empêcherait
justement. Le désert, il y a du sable, il y a de la boue, c'est pas très, très noble comme endroit.
Alors, effectivement, si vous faites appel tout simplement au faste avec lequel on aurait pu imaginer que le matin de Torah soit célébré, on peut effectivement penser qu'il y a des endroits un peu plus attrayants et peut-être un peu plus luxueux que le désert. C'est une bonne question que vous posez et permettez-moi d'y répondre tout simplement en disant que le faste n'était peut-être pas la priorité d'Akadosh Baruch Hu au moment où il donne cette Torah. Au contraire, le désert, je parlais du champ des possibles, mais je parle aussi d'un endroit qui, justement, du fait qu'il ne soit pas destiné à accueillir la vie, le désert a des conditions climatiques qui rendent très, très difficile la possibilité de toute vie biologique, eh bien, c'est peut-être et sans doute la volonté d'Akadosh Baruch Hu de montrer qu'il y a une certaine forme d'humilité à avoir lorsqu'on veut s'imprégner de cette Torah, lorsqu'on veut recevoir cette Torah dans de bonnes conditions. Il n'est pas question de s'enorgueillir, il n'est pas question de se mettre en avant, il n'est pas question de mettre l'accent sur la grandeur de l'homme, mais au contraire, voilà, sur sa petitesse et sur le fait que, à l'instar un petit peu de ce Arsinaï, cette montagne qui a été choisie justement parce qu'elle était la moins noble et parce qu'elle était la moins impressionnante de toutes, eh bien, pour recevoir la Torah, il faut être capable de faire preuve de beaucoup d'humilité. On parle toujours de la montagne, puisque l'eau sur la montagne va ruisseler en partant du haut et en allant vers le bas, eh bien, c'est la même chose. Voilà, si un homme veut pouvoir intégrer cette Torah, il va devoir se faire tout petit afin que cette eau puisse ruisseler, et pénétrer dans les conditions les plus adéquates.
Alors, l'événement de la semaine, on l'a dit, c'est Shavuot, le don de la Torah. Ce sera le jeudi 25 mai, entre 19h37 et 21h01, pour l'allumage des bougies. Ne pas oublier, avant l'allumage des bougies, de préparer Eruv Tashvilin. On en a beaucoup parlé la dernière fois, donc on ne va pas revenir sur ce qu'il faut faire. Donc, vendredi, premier jour de Shavuot, samedi, deuxième jour de Shavuot, la fin de Shavuot, ce sera samedi soir à l'issue du Shabbat. Un mot quand même entre la relation entre la paracha Bamidbar et Shavuot, c'est toujours Bamidbar avant Shavuot.
Alors, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit, mais c'est marqué ce que vous dites est inscrit même dans la halakha. Ce n'est pas simplement, on va dire, un hasard de calendrier. Le fait que la paracha de Bamidbar précède systématiquement la fête de Shavuot, c'est même inscrit dans la halakha, à tel point que le tour lui-même nous a dit Menu ve'atzru, c'est-à-dire qu'il y a un moyen mnémotechnique de se rappeler de cette chronologie. D'abord, on compte. donc ça, fait, ça nous rappelle le conte, non, le conte de Shavuot, le conte de la Parabole, ça aurait pu nous rappeler le conte. Ouais. Effectivement, c'est un petit peu un jeu de mots, on est à cheval sur le conte du Homer qui nous amène à la fête de Shavuot, mais également sur le conte, le dénombrement qui est fait dans la paracha de Bamidbar, Ve'atzru, et après on s'arrête, puisque la fête de Shavuot est appelée Atzeret dans la Torah, elle possède deux noms, le nom de Shavuot, la fête des semaines, mais également celui de Atzeret. Atzeret qui est un arrêt, qui est une fin, et on verra, c'est sans doute le lien aussi qui existe avec la fête de Pessah, puisqu'il y a un décompte qui nous amène à un moment donné à cette fête de Shavuot qui marque l'arrêt justement d'une période, et un arrêt qui nous amène à, qui est une période de réflexion aussi, de prise de conscience. Et donc la fête de Shavuot est inscrite dans la halakha, et toujours la fête de la parasha de Bamidbar, pardon, est toujours lue avant la fête de Shavuot. Pourquoi ? Alors, j'ai dit, ça fait allusion un petit peu à ce que l'on a dit, tout simplement parce qu'il y a un lien entre le lieu dans lequel ce dénombrement a été fait, dans lequel les Bnei Israël se sont promenés durant 40 ans, et le don de la Torah, il y avait une volonté pour Akadosh Baruch Hu de fixer le décor, et je rappelle peut-être, je donne encore peut-être une troisième explication, qui est celle de l'immensité du désert. Le désert semble infini lorsqu'on s'y trouve, on n'en voit plus la fin. Eh bien, c'est un petit peu aussi dans cette perspective que le clan Israël doit se confronter à la Torah, pas comme quelque chose de fini, mais au contraire comme quelque chose d'infini, et quelque chose qui prend toute une vie à être intégré, comme j'ai dit, à être étudié. Donc il y a cette volonté vraiment entre les deux, et peut-être aussi, et j'en terminerai avec cela, Jean, vous le savez, parce que la parachate Nasso, qui elle, de manière générale, est lue après Shavuot, alors il y a des exceptions, les années embolismiques, il peut s'avérer que la parachate Nasso soit lue avant, la parachate Nasso qui elle parle d'une élévation, donc un petit peu l'inverse du Midbar qui lui nous parle plutôt d'humilité, eh bien, doit voir intervenir au milieu la fête de Shavuot, c'est-à-dire que c'est la fête de Shavuot qui va faire le lien entre la parachate Bamidbar et la parachate Nasso, c'est en s'imprégnant finalement de cette Torah qu'on a la capacité parfois à relever la tête et à affronter les situations les plus complexes.
Alors, Shavuot, on dit, c'est le jour du don de la Torah, mais en tant que juif, est-ce qu'on ne reçoit pas la Torah tous les jours en fait ? On accepte tous les jours le jour de la Torah.
Bien sûr, question classique. Pourquoi est-ce qu'on a...
Merci pour le classique.
Pourquoi est-ce qu'on a... Mais c'est une question vraiment importante qu'on se doit de... D'ailleurs, c'est une question pour laquelle il n'y a pas de réponse unique, mais c'est c'est beaucoup plus qu'une question en réalité. C'est une véritable réflexion philosophique que l'on se doit d'avoir lorsqu'on se confronte à cette fête de Shavuot, en se demandant pourquoi est-ce qu'un jour a été institué pour incarner, pour célébrer ce don de la Torah qui, par définition, est un don qui se renouvelle chaque jour.
L'Oalenu, c'est comme la fête des pères, la fête des mères. J'aime ma mère toute l'année.
Tout à fait. Donc, il n'y a pas besoin de marquer cet amour.
Non, c'est vrai.
Un jour particulier. Alors, la première réponse la plus élémentaire, j'ai envie de dire, peut-être la plus facile que j'ai envie de vous donner, c'est que la fête de Shavuot n'est pas, dans la Torah, désignée en tant que fête de Matan Torah. C'est-à-dire que nous en avons fait la fête de Matan Torah, mais telle qu'elle est présentée dans la Torah, je vous l'ai dit, elle s'appelle ou bien Atzeret, ou bien Chag HaShavuot, la fête des semaines, mais à aucun moment vous ne trouverez dans la Torah une allusion au fait que cette fête de Shavuot symbolise le don de la Torah. Alors nous, on le sait que dans les faits, sa date coïncide avec le moment où la Torah a été donnée, mais ce n'est pas sous cette forme que la Torah, justement, la représente. Et sans doute, parce que la Torah ne voulait pas limiter, en quelque sorte, l'influence que cette Torah doit avoir sur nous à une journée. Elle n'a pas voulu faire de cette journée une journée qui incarnerait à elle seule, finalement, le don de la Torah. Le don de la Torah, effectivement, c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. Pour autant, voilà, il est important de marquer le jour où cette Torah a été donnée. Tout simplement parce que même si cette Torah se renouvelle tous les jours, même si elle est étudiée en permanence, même si c'est par le souffle de cette étude de la Torah jour et nuit que le monde continue à exister et à se maintenir, eh bien, l'énergie, la source de cette énergie se trouve quand même dans le moment où cette Torah a été donnée. C'est un moment tout particulier où toutes les âmes du clan Israël étaient réunies à ce moment-là autour du Harsinaï, même celles qui n'étaient pas encore incarnées dans les corps. Et donc, il y a une énergie, une force particulière qui se dégage de ce jour, de cette journée de Shavuot. Et je rappelle que cette pensée peut se décliner d'ailleurs pour toutes les fêtes, que lorsque nous célébrons les autres fêtes de l'année, je pense notamment aux fêtes de pèlerinage, que ce soit Pessah ou Sukkot, nous ne sommes pas, on le répète sans arrêt, mais nous ne sommes pas dans des commémorations, mais tout simplement, nous sommes en train de revivre ces événements et d'essayer en quelque sorte de faire rejaillir l'énergie qui se trouvait au moment où cet événement historique a eu lieu, et de la faire revivre chaque année. C'est cette énergie que nous essayons de retrouver et que nous essayons en quelque sorte, eh bien, de répandre à nouveau sur le monde.
Alors, vous l'avez dit, et je voulais qu'on en a parlé aussi la semaine dernière, mais le rapport entre la fête de Pessah et de Shavuot, on sait que c'est 49 jours après. Pourquoi cette proximité ? Parce qu'entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, on voit pas beaucoup de proximité, à part que c'est la suite logique finalement.
Alors j'ai envie de vous dire, Jean, que Dieu a annoncé la couleur dès le départ, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va nous parler dans la paracha de Shemot de son projet de faire sortir les enfants d'Égypte, lorsqu'il va écouter leurs souffrances et qu'il va décider qu'il est temps maintenant qu'ils quittent l'Égypte, qu'ils ont assez souffert et que ce séjour a suffisamment, on va dire, porté ses fruits pour que le Klal Israël puisse enfin recouvrer sa liberté, Akadosh Baruch Hu va immédiatement annoncer la couleur et il va le dire à Moshe. L'objectif de la sortie d'Égypte est de pouvoir atteindre le Har Sinaï pour recevoir la Torah. On ne peut pas envisager qu'un peuple soit libre sans constitution. Et si Akadosh Baruch Hu a fait sortir le Klal Israël du joug égyptien, ce n'est pas pour le laisser tranquillement vaquer à ses occupations, mais c'est pour que, en quelque sorte, de serviteurs de l'Égypte, ils puissent devenir des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, des serviteurs de Dieu, mais cette fois-ci, comme vous l'avez dit, dans le sens le plus noble du terme. Donc ce lien, en réalité, est évident. La sortie d'Égypte doit nécessairement mener à la Kabbalat HaTorah, au don de la Torah, et c'est la suite logique de cette sortie. C'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fête, de date définie pour la fête de Shavuot. On en avait déjà dit un mot, mais que cette fête n'est en réalité que l'aboutissement d'un conte qui, rappelons-le, a permis au Klal Israël, chaque jour, de remonter un petit peu toutes les strates de l'impureté dans lesquelles il s'était engoncé durant ces 210 années d'esclavage en Égypte. Et donc, il y avait cette reconstruction spirituelle et psychologique qui était nécessaire pour pouvoir recevoir la Torah dans de bonnes conditions. Donc la fête de Shavuot est, on le sait, un aboutissement. Peut-être une allusion aussi à quelque chose d'assez classique, mais qu'il est important de rappeler dans les faits, parce qu'on va parler aussi des mitzvot qui sont inhérents, des commandements inhérents à chaque fête, même si ce commandement n'existe plus aujourd'hui parce que nous n'avons plus de temple. Je rappelle que une des symboliques de la fête de Shavuot, c'était de venir apporter les deux pains, les fameux shnei lechamim, les deux pains de Shavuot, qui là aussi sont l'aboutissement de quelque chose.
C'est pas les mêmes pains qu'on apportait tous les jours.
Alors non, ce ne sont pas les pains de proposition qui étaient échangés chaque semaine à l'intérieur par les Kohanim, à l'intérieur du temple, du tabernacle, puis du temple de Jérusalem, mais ce sont ici des pains spécifiques à la fête de Shavuot. Nous sommes partis, rappelons-le, du conte du Homer. Le conte du Homer, c'est apporter une mesure d'orge, l'orge qui est une nourriture animale, et cette nourriture animale qui représente un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous étions, avec cet instinct un petit peu bestial qui existait à l'intérieur de chacun d'entre nous lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Nous allons affiner au travers d'un travail personnel durant ces 49 jours, nous allons affiner un petit peu ces qualités personnelles pour pouvoir recevoir la Torah dans de bonnes conditions, en n'étant plus en quelque sorte finalement des espèces de morts vivants sortis d'Égypte, mais au contraire, en étant des êtres humains parfaitement conscients des responsabilités qui sont les leurs, en ayant travaillé donc un certain nombre de travers qui peuvent exister à l'intérieur de chacun d'entre nous, et cela nous amène à passer de l'orge au blé, qui donc de la nourriture animale à la nourriture de l'homme, au travers donc de ces deux pains. Rappelons aussi que l'orge, même si c'est un aliment aussi qui peut devenir de chametz, l'orge qui était offert à Pessah, fait aussi un petit peu écho à la matzah, tandis que l'aliment de Shavuot, lui, est un aliment chametz par essence même, le pain. Et parce qu'au travers de ce travail que nous avons fait durant toutes ces journées qui séparent la fête de Pessah de la fête de Shavuot, eh bien nous avons la possibilité de maîtriser à nouveau ce chametz, c'est-à-dire ce yetzer hara, ce penchant parfois un petit peu perturbateur qui peut exister à l'intérieur de chacun d'entre nous, et d'offrir donc dans de bonnes conditions ces chalot. C'est ça aussi la force finalement d'un homme, c'est de ne pas fuir les choses qui pourraient le déstabiliser, mais c'est d'apprendre à vivre avec. Comment est-ce que j'apprends à vivre au quotidien avec ce yetzer hara qui m'anime ? C'est un long travail, mais c'est ce long travail qui est un travail exigeant, et un travail à la fois donc exigeant et fastidieux, que nous nous devons de faire entre Pessah et Shavuot et qui nous permettent à la fête de Shavuot véritablement d'arriver à l'aboutissement de quelque chose.
Alors, malgré le fait que Shavuot soit la deuxième fête des pèlerinages, cette fête est un peu moins suivie, on a l'impression, par notre communauté. À l'instar de Pessah et de Sukkot, vous êtes le grand rabbin, vous dites souvent, monsieur le grand rabbin, cette fête mal aimée du calendrier, à votre avis, c'est un manque de mitzvah forte dans cette fête ou un manque de symbolique?
Alors, mal aimé de notre communauté, je ne me permettrai pas de dire une telle chose. Voilà, surtout qu'à Strasbourg, c'est peut-être un contre-exemple à Strasbourg où la force de l'étude de la Torah est extrêmement puissante et ne fait qu'aller en s'agrandissant et elle touche, j'ai envie de dire, vraiment toutes les strates de la communauté. Voilà, nous ne croyons pas que c'est l'apanage d'une certaine caste religieuse ou ultra-pratiquante de la communauté. Il y a un intérêt extraordinaire pour l'ensemble de nos fidèles, pour les textes, pour la confrontation aux textes. Il y a une offre de libre mood, une offre d'études qui est extrêmement variée dans la ville.
En même temps, c'est pas une fête où il y a full à la
effectivement. Synagogue. Alors, ça reste quand même, on va dire, l'apanage d'un certain nombre de fidèles, parfois avec, donc je l'ai dit, cet intérêt particulier pour le Limoud peut-être une certaine frange intellectuelle de la communauté. C'est tout simplement lié, Jean, au fait que, comme vous l'avez dit, cette fête n'a pas de mitzvah symbolique, elle n'a pas de commandement tout à fait notable, comme c'est le cas.
Il y en a ou pas, alors?
Alors, vous avez parlé d'études de la Torah. L'étude de la Torah, effectivement, c'est, le moment fort de la fête de Shavuot qui va s'articuler autour de ce Limoud. Je pense notamment à cette nuit d'études, mais qui n'est pas un commandement. Il n'y a pas une obligation de la Torah, il y a une obligation de la Torah d'étudier tous les jours. Il n'y a pas une obligation de la Torah d'étudier spécifiquement à Shavuot. Il n'y a pas d'obligation. C'est un jour de Yom Tov Même ça, ce n'est pas, c'est pas un commandement de la Torah. C'est un jour qui est marqué comme un jour de Yom Tov, Atzeret, avec les mêmes lois que les lois qui s'appliquent aux autres jours chômés et fériés de l'année, avec les lois inhérentes donc à Yom Tov. Certaines choses qui sont, comme vous le savez, autorisées à Yom Tov et qui ne le sont pas à Shabbat, notamment cuisiner pour les besoins de la fête ou transporter pour les besoins de la fête, mais il n'y a pas de mitzvah spécifique, si ce n'est celle que je rappelais d'apporter donc ces deux pains et qui était une mitzvah qui était en vigueur lorsque le temple existait.
De nos jours, jeudi prochain ou vendredi prochain, je vais à la synagogue, je mange, je dors, je mange, je dors,
C'est extraordinaire déjà. C'est-à-dire de consacrer une journée de Yom Tov, de la consacrer en famille. Ce qui est à la fois finalement très paradoxal, c'est que justement, dans cette journée de Yom Tov, il va y avoir un long moment qui pourrait être consacré justement à l'échange et au temps que l'on va prendre avec sa famille, puisque la tefila n'est pas spécialement longue le jour de Shavuot. Il n'y a rien de spécifique. Il y a bien sûr l'introduction des 10 commandements au moment de la Kriyat Torah, mais qui ne va pas rallonger par rapport à un Shabbat normal, la lecture de la Torah. Et il n'y a pas de rallongement de la tefila non plus par d'autres mitzvot spécifiques, comme c'est le cas à Sukkot, par exemple, où il va y avoir la mitzvah du Lulav, ou d'autres mitzvot. Et donc finalement, de manière assez paradoxale, alors que c'est une fête qui incarne le don de la Torah, eh bien, il y a aussi une volonté de mettre l'accent sur le rapport que nous entretenons avec notre famille, et peut-être la volonté de mettre l'accent sur la notion aussi de transmission, finalement, de cette Torah. C'est-à-dire que cette Torah, ce n'est pas quelque chose qui s'étudie seul, dans son coin, mais c'est quelque chose qui se partage. La Torah, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. La Torah, elle n'est pas simplement intellectuelle, c'est pas simplement un moment d'enrichissement personnel, mais c'est quelque chose qui se vit dans la vie de tous les jours, et ça se vit dans son rapport à sa famille, ça se vit dans la Seouda, dans le repas que nous allons passer avec nos proches, ça se vit dans les échanges aussi de Torah qui se font à table, avec sa femme, avec ses enfants, avec les invités qui se trouvent à table, ou tout simplement dans les rapports que nous entretenons avec les autres. C'est aussi ça, finalement, de vivre cette Torah. Et c'est important qu'à Shavuot, justement, qui incarne l'expression de ce don de la Torah, eh bien que cette Torah ne puisse pas se vivre uniquement de manière intellectuelle, mais également, j'ai envie de dire, de manière très très pragmatique dans les échanges que nous avons avec les autres et dans la manière quotidienne, finalement, de vivre et d'exprimer cette Torah.
Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on fait? On se lève quand il y a les 10 commandements, enfin les 10 paroles, on reste assis, on discute avec son collègue, comment on fait?
Alors, les deux avis existent, Jean. Les deux avis existent. Je vais d'abord peut-être faire un petit préambule sur l'obligation, d'une manière générale, de se lever pour la Kriyat HaTorah, pour la lecture de la Torah. Parce que peut-être que pour vous, il apparaît comme évident qu'il faille rester assis, d'une manière générale. Je vous parle tous les Shabbats quand vous vous rendez à la synagogue pour écouter la lecture de la Torah. Il vous apparaît peut-être évident qu'il y ait une autorisation, voire même une préconisation de rester assis pendant la lecture de la Torah. Il faut savoir que ça fait l'objet d'une discussion, le Shulchan Aruch.
Les Ashkenazim se lèvent.
Et alors, le Shulchan Aruch, lui, rapporte qu'il n'y a pas de nécessité d'obligation à se lever pendant la lecture de la Torah. Le Rameau, donc, qui est l'auteur des gloses Ashkenaz sur le Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Iserlich, lui, précise que les Ashkenazim, eux, ont l'habitude de se montrer mahmirim et de rester debout pendant la Kriyat HaTorah. Alors, il y a bien sûr la possibilité aussi pour les Ashkenazim pour qui ce serait trop difficile de rester debout, et c'est ce que font aujourd'hui la quasi-totalité des Ashkenazim, de rester assis, mais le Rameau dit plus exactement Yesh Mahmirin, qu'il y en a, donc ce n'est pas une obligation d'être Mahmirin, de se montrer plus strict, mais qu'il y en a en tout cas qui ont l'habitude de se montrer plus strict et de rester debout. Et de là, eh bien, nos décisionnaires ont préconisé qu'il y a une certaine forme de hidour, c'est-à-dire d'embellissement de la mitzvah, pour celui qui en a les forces, de rester debout pendant la lecture de la Torah. Donc effectivement, dans le monde ashkénaze, lorsqu'on veut se montrer un peu plus strict, on reste debout tous les Shabbats pendant la lecture de la Torah. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de rester assis, comme les Sfaradim, pourrait se poser le problème de faire une distinction entre certains passages de la Torah et d'autres. Et ça, notamment pour le Rambam Maïmonide, ce serait quelque chose de gravissime, puisque mettre en avant un passage de la Torah plutôt qu'un autre pourrait faire penser aux gens qu'il y a certains passages qui sont qui possèdent plus d'importance dans la Torah, certains psukim, même certains versets. C'est une aberration absolue. Chaque lettre de la Torah a exactement la même importance, et on ne peut pas imaginer que les 10 commandements, et au contraire, il faut même fuir cette idée qui a tendance depuis des années un petit peu à se répandre dans certaines couches de la communauté, et à penser que finalement les 10 commandements, c'est ce qui est le plus important, et le reste, c'est un petit peu secondaire. Et très rapidement, on peut glisser au niveau de la pensée en imaginant qu'il y a dans la Torah certaines parties qui sont essentielles et d'autres qui seraient totalement facultatives. Le Rambam nous met en garde contre cet écueil, et c'est la raison pour laquelle lui, le Rambam, insiste sur le fait qu'il faille absolument rester assis. Disant que le minhag des Sfaradim, et chacun fera selon son minhag, est de rester assis. Cependant, et je tiens à le dire, Jean, à ce micro, il y a absolument, il y a une base très solide sur laquelle s'appuyer pour ceux qui ont l'habitude de se lever au moment des 10 commandements. Sachant, et je terminerai peut-être avec cela, que la manière peut-être la plus élégante de s'en sortir, c'est de se lever depuis le début de la montée. D'accord. Et en se levant depuis le début de la montée, eh bien, on se rend compte qu'on ne s'est pas simplement levé pour les 10 commandements, mais on s'est levé en réalité pour toute la montée, et donc ça permettrait peut-être aussi à un Sfarad qui serait dans un minyan, dans un Ashkenaz, et qui n'a pas l'habitude de se lever, eh bien de se sortir un petit peu de ce problème. Il se lève pour toute la lecture, depuis le début, et dans ce cas-là, il ne montre pas de préférence entre les différents passages de la Torah.
Il nous reste 1 minute 40. C'est quoi votre message pour ce Shavuot à nos auditeurs? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Nos auditeurs, j'ai envie de leur dire, et je m'adresse principalement à ceux qui justement n'ont pas encore fait ou n'ont pas eu peut-être ni soit le courage, soit la force, soit tout simplement n'ont pas eu écho de cette fête de Shavuot, eh bien de leur dire de venir tenter l'expérience d'une confrontation à ces textes de la Torah. Voilà, je le dis, ce sont des moments extraordinaires, ces moments de limoud, ces moments d'étude que nous avons à des heures très particulières, puisque je rappelle qu'à Shavuot, cette tradition d'étudier la nuit rend le limoud tout à fait particulier. C'est, je vous assure, étudier la nuit dans un moment où le monde a l'air de s'arrêter, puisque les gens sont généralement en train de dormir, ça donne une teneur tout à fait particulière à cette étude. Et nous avons la chance à Strasbourg d'avoir de très très nombreux cours qui sont donnés. Il y a soit des possibilités d'étudier en binôme, soit des possibilités d'assister à des cours de grande qualité. Vous avez bien sûr tout le programme de ces cours dans le Shabbat Shalom. Donc vraiment, j'ai envie de dire à ceux qui n'ont jamais eu ni la force ni le courage de venir assister à ces cours, de faire l'effort de venir peut-être au moins au premier d'entre eux. On ne demande pas à tout le monde de rester toute la nuit. Ça peut être très difficile pour certaines personnes de rester réveillées toute la nuit, mais au moins une de partie. Venir participer au premier premiers de ces cours. Pour ceux qui n'auraient pas du tout la force de le faire pendant la nuit, eh bien, ils ont la possibilité de se rattraper, notamment grâce au Yom Alimoud. Et je fais un petit peu de publicité peut-être pour le Yom Alimoud, qui est à l'initiative du rabbin Spingarn, est organisé chaque année. Et Jean, je tiens à dire que si le rabbin Spingarn organise depuis chaque année le Yom Alimoud le deuxième jour de Shavuot, c'est parce que le rabbin Spingarn avait remarqué qu'on avait tendance à engager toutes les forces de l'étude de la Torah le premier jour de Shavuot, et notamment la première nuit, et que le deuxième jour de Shavuot était un petit peu délaissé. Il s'est dit, eh bien, il n'y a pas de raison que ce deuxième jour de Shavuot soit déconsidéré par rapport au premier jour de Shavuot, et donc je vais introduire et initier une après-midi d'étude le deuxième jour de Shavuot. Elle aura lieu cette année le Shabbat, donc 27 mai, à 16h40, et vous avez tout le programme dans le Shabbat Shalom. Et cette fois-ci, on est en pleine journée, en plein après-midi. C'est un Shabbat, personne n'a d'excuse pour ne pas venir participer à ces cours. Et on a des orateurs vraiment très très sympathiques cette année. Je pense bien sûr à Madame Tamar Schwartz, qui intervient chaque année, fidèle parmi les fidèles, et avec un enseignement toujours d'une grande grande qualité. Monsieur Philippe Marmor, son épouse, Madame Laurence Marmor. On a Monsieur Jérôme Touboul, très intéressant. C'est le directeur du CEJ à Paris, je le connais personnellement très bien. Et c'est un garçon vraiment remarquable, et très très fin dans son analyse. Et le cours de clôture cette année, et je suis très content que ça se passe de cette manière, sera donné par monsieur Ariel Abessera. Vous voyez, la Torah, c'est pas l'apanage uniquement des rabbanim ou d'une certaine élite rabbinique ou intellectuelle. La Torah, eh bien, chacun peut se l'approprier, chacun peut l'étudier, chacun peut être capable de la partager avec les autres. Et Ariel est remarquable à ce niveau-là. Il a une atmada et un sérieux dans son étude de la Torah. Il suit des cours notamment avec son beau-frère, le Raph Moshe Tapiero, chaque semaine. Et
ancien de la radio, Ariel Abessera.
Ancien de la radio. Voilà. En tout cas, il a toujours beaucoup de brio pour retransmettre justement ses chiourim et ses études qu'il partage, notamment avec son beau-frère. Et je pense que son chiour de clôture sera axé sur un de ces moments de limoud qu'il a eu avec un des grands penseurs de notre époque, qui est le Rav Moshe Tapiero, issu de Strasbourg, et dont on est très très fier.
Rendez-vous, moi je donne rendez-vous jeudi à 14h pour une émission spéciale avec le Rav Aaron Eliashef pour parler de Shavuot. Monsieur Grand Rabbin, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Chag Sameach et Mazel Tov.
Merci beaucoup.
Allez, merci beaucoup à Lucas pour la réalisation technique. Rendez-vous donc jeudi à 14h.
Shabbos Kodesh, you did not prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos.